France Inter.
Journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour à tous. À la une, ce matin, la fin du HLM à vie. Le gouvernement veut sortir les locataires devenus trop riches pour le logement social, près d'un sur dix. Détail dans un instant. Mais pourquoi l'essence est-elle redevenue si chère? Autour de 2 euros le litre, explication à suivre. La une, ce matin, c'est aussi le débat entre vos invités, Alim et Marion.
Dernier vendredi de l'Europe sur Inter, et un débat donc pour clore ces émissions spéciales élections européennes. 2 eurodéputés, Jordan Bardella, président du RN et tête de liste du parti pour ce scrutin, et Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes.
Nos questions dans ce débat et les vôtres, chers auditeurs, au 01 45 24 7000, vous connaissez le numéro du standard ou sur l'application France Inter.
D'ici là, le scénario effarant qui a conduit à la mort d'un ado de 15 ans mardi à Romans-sur-Isère. Un père et ses deux fils sont en garde à vue pour assassinat. Le droit à l'IVG débattu en Pologne, les femmes vont-elles le récupérer? L'artichaut, légume mal aimé désormais en France, la filière se demande comment le rendre plus sexy. Et Petit Pays de Gaël Faye en bande dessinée, on entendra son émotion devant les images de sa vie.
France Inter.
J'y suis, j'y reste. Le logement social ou l'école de la patience, récompensée par un loyer bien plus bas que les prix du marché et la possibilité d'y rester toute sa vie, même quand ses revenus augmentent. Eh bien, ça va changer, annonce le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, dans Les Échos ce matin. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
Les locataires qui gagnent trop pour rester en HLM vont devoir laisser la place.
Nous avons le devoir collectif d'accélérer les files d'attente, estime le ministre, qui reprend ce vieux serpent de mer pour cette fois l'inscrire noir sur blanc dans le projet de loi logement présenté début mai en Conseil des ministres. Il insiste sur un chiffre, plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui. C'est pourquoi Guillaume Kasbarian veut que les bailleurs sociaux examinent régulièrement et obligatoirement la situation personnelle, financière et patrimoniale de ceux qui occupent les 5 200 000 HLM français. Il vise les locataires dont la situation a changé depuis l'attribution, revenus plus importants, héritage ou acquisition d'une résidence secondaire. Cette évaluation permettra soit, comme actuellement, d'augmenter les loyers, soit de ne pas renouveler le bail. C'est crucial, dit le ministre, alors qu'actuellement 1 800 000 ménages sont en attente d'un logement social.
Autre changement prévu dans le projet de loi du ministre, les maires reprendraient la main sur l'attribution des HLM.
Oui, dans ce projet, les maires présideront systématiquement la commission d'attribution des logements neufs. Ils prévoient aussi de donner aux maires et plus aux préfets la décision sur la vente des logements sociaux possible au bout de 5 ans et non plus 18. Cela laisse entrevoir le spectre du clientélisme, ce à quoi le ministre répond « faire confiance aux élus », soulignant que les attributions continueront à se faire, je cite, « dans le respect des publics cibles ».
Sarah Mansoura, merci. Le projet de loi logement sera présenté début mai en Conseil des ministres. La hausse du surendettement des ménages avec la fin du quoi qu'il en coûte des années Covid. 35 000 dossiers déposés à la Banque de France au premier trimestre. C'est presque 20% de plus que l'an dernier. Dans 6 cas sur 10, c'est un événement de la vie, séparation, licenciement, décès, qui fait basculer vers la spirale du surendettement. Quand le prix de l'essence se rapproche des 2 euros, on a déjà connu, revoilà donc la douloureuse du plein à la station service. En amont, le prix du baril flambe, car la situation géopolitique est toujours plus compliqué, Maxime Debs.
En cause, les tensions au Moyen-Orient, par lequel transite une grosse partie du pétrole arrivant en Europe. Une mer rouge entravée pour les bateaux, les tankers, c'est de l'essence en moins qui arrive jusqu'à nous. Explication numéro une, mais qui n'est pas la seule aux tensions actuellement à la pompe. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine.
Il y a en Russie, on en parle beaucoup moins, mais c'est également un sujet d'attention, des attaques assez régulières de l'Ukraine sur des infrastructures de raffinerie, ce qui réduit de l'ordre de 15% la capacité de raffinage russe, et donc dans un marché dans lequel il y a beaucoup d'interdépendance, ça peut expliquer également des tensions.
Tout ça, mis bout à bout, fait forcément mécaniquement grimper les prix.
Puis par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'OPEP+, c'est-à-dire schématiquement l'Arabie Saoudite, la Russie et leurs alliés, ont une politique très restrictive depuis plusieurs années. Leur idée étant de maintenir le prix du baril suffisamment haut de telle manière à couvrir les besoins budgétaires, et notamment pour la Russie, c'est absolument essentiel de ne pas laisser le prix du baril s'effondrer.
Sans compter que le marché du pétrole est un marché d'anticipation, certains acteurs peuvent être tentés d'acheter du pétrole maintenant, avant, sait-on jamais, que la situation ne se dégrade encore, ce qui a pour effet dans ces cas-là aussi de tirer les prix vers le haut.
Maxime Debs, pas de débat sur la politique énergétique du gouvernement, il aurait dû y avoir une loi et un passage devant le Parlement, finalement ce sera un décret. Par souci d'efficacité, dit le ministre Roland Lescure dans le Figaro, qui dénonce une guerre de religion entre pro-nucléaire et pro-renouvelable.
Mort pour s'être interposé dans une bagarre, Florence.
Il avait 15 ans, il s'appelait Zacharia, tué mardi d'un coup de couteau à Romans-sur-Isère. Depuis hier soir, 4 personnes sont en garde à vue. Un père, ses 2 fils et leur accompagnateur venu en découdre ce jour-là contre un autre jeune du quartier, Alexandre Berthaud.
L'affaire a commencé bien avant mardi soir, une dispute entre 2 ados violente et apparemment filmée. Et le père d'un des 2, père de famille, s'en mêle, selon le communiqué du procureur. Il pousse son jeune fils à aller se venger, il le conduit mardi dans le quartier de la Monnaie, accompagné de son autre fils, âgé de 27 ans. Les 3 trouvent leur cible, commencent alors une bagarre, et c'est là que la victime intervient, Zacharia, 15 ans, habitant du quartier de la Monnaie, qui essaye de s'interposer alors que tout ça s'envenime. C'est à ce moment-là que le grand frère de 27 ans sort un couteau, donne un coup mortel à Zacharia. Le père organise alors la fuite de toute la famille, mais un complice qui était dans la voiture a été rapidement interpellé mercredi. Le jeune suspecté d'être l'auteur du coup de couteau s'est ensuite rendu hier matin. Le père et le plus jeune frère hier soir.
Alexandre Berthaud, France Bleu Drôme Ardèche. L'enquête ouverte pour meurtre a été requalifié en assassinat. Pas de harcèlement, aucun fait relevé à ce stade. Précision du procureur de la République de Reims qui enquête sur le décès d'un adolescent de 15 ans, retrouvé mardi dans les toilettes de son lycée. Les causes de sa mort sont pour l'instant inconnues. Loin de la France pour une journée encore, Gabriel Attal fait de la diplomatie au Canada. Hier, il a défendu le CETA, traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, avec Justin Trudeau, son homologue à Ottawa, puis direction Montréal. Discours devant les députés québécois et rencontre aujourd'hui avec les expatriés français. Bref, un vrai programme de chef d'État, Marie Mollet.
Pour son premier grand rendez-vous diplomatique, Gabriel Attal s'est offert la totale. Une délégation de la taille d'un avion, 5 ministres avec lui, entretien et photos à gogo avec un chef d'État, Justin Trudeau.
Gabriel, c'est un grand honneur de t'accueillir cette semaine. Au Premier ministre Attal et à tous les Français, santé.
Les honneurs militaires. Des interviews en anglais, s'il vous plaît.
What I will tell you as the French Prime Minister and as a European, we need a second lifeguard.
Et un discours devant le Parlement québécois, comme avant lui, François Hollande ou Nicolas Sarkozy.
Certains pensaient sans doute que le français avait vocation à disparaître de la carte de l'Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois. Vive le Québec et vive l'amitié franco-québécoise.
Les députés debout, Gabriel Attal jubile. Il est venu pour cela, des images pour l'histoire, vite une stature internationale que pour l'instant il n'a pas, goûter aux délices du protocole pour aussi échapper à ses ennuis, le dérapage budgétaire, la campagne des européennes au point mort. Gabriel a besoin de prendre l'air, reconnaît son entourage. Son excellence, Gabriel Attal, comme on l'appelle ici, savoure avant son retour demain dans l'enfer de Matignon.
Marie Mollet à Montréal pour France Inter. L'Iran mettra-t-elle ses menaces contre Israël à exécution par précaution? Les États-Unis demandent à leur personnel diplomatique en Israël de ne pas se déplacer dans le pays. Explication et analyse dans la chronique géopolitique de Franck Madvon dans quelques minutes. Au Mali, la junte au pouvoir ne veut plus aucune contradiction. Avant-hier, elle annonçait la suspension des activités des partis politiques. Depuis hier soir, elle interdit aux médias de les couvrir. Les Polonaises vont-elles récupérer le droit d'avorter autorisé sous le régime communiste, drastiquement réduit ensuite pour être quasiment interdit par les ultra-conservateurs au pouvoir jusqu'à l'automne dernier. Le Premier ministre Donald Tusk avait promis de légaliser l'IVG. Le Parlement en débat donc aujourd'hui et votera demain. Mais le sujet divise dans un pays très influencé par l'Église et jusque dans les rangs de la majorité. Martin Chabal est à Varsovie.
C'est l'aile gauche de la coalition au pouvoir qui espère rendre l'avortement légal jusqu'à la 12e semaine de grossesse. La députée de gauche Monica Rosa a tenu à faire entendre son message aux députés de la droite populiste qui défendent la législation actuelle.
Vous n'avez jamais été enceinte et vous ne savez pas ce que signifie porter un enfant et avoir peur. Et qu'importe vos commentaires sur l'éthique ou la morale, vous ne saurez jamais ce que signifie avoir peur d'être enceinte en Pologne.
La députée Anna Maria Żukowska, quant à elle, porte un projet de dépénalisation de l'aide à l'avortement.
Aujourd'hui, en Pologne, aider quelqu'un à avorter, c'est puni de 3 ans de prison. 3 ans, c'est un scandale et c'est inacceptable.
Mais ces débats sont un vrai test pour la majorité parlementaire et révèlent la fragilité de la coalition. Tous ne sont pas d'accord sur la libéralisation de l'avortement. Dans le même camp, certains ne veulent l'autoriser qu'en cas de viol, de malformation du fœtus ou de menace pour la vie de la mère. Et puis le président Andrzej Duda, allié des populistes de droit et justice, a déjà menacé d'imposer son veto à tout changement sur l'avortement. Martin Chabal pour France Inter à Varsovie.
Contre le frelon asiatique qui décime les abeilles dans leurs ruches, le Sénat veut sévir en France. Un plan national de lutte a été adopté à l'unanimité hier, qui prévoit des indemnisations pour les apiculteurs et l'obligation pour les particuliers de signaler les nids de frelons qui devront être détruits par les préfectures. Question Ali et Marion. On mange mes feuilles, mais pas ma barbe. On me trempe dans la vinaigrette et je fais la fierté des producteurs bretons.
L'artichaut.
Évidemment, l'artichaut, plus si évident, justement, victime du désamour des Français en 2023. Seul 1 Français sur 4 en a acheté. Quel dommage. Les ventes reculent d'année en année. Il ne reste plus que 300 exploitations dans le Nord Finistère et les Côtes d'Armor et 2 fois moins de production qu'il y a 10 ans. La filière Nicolas Olivier tente donc d'arrêter le déclin.
Cela fait 30 ans que Christian Bernard cultive de l'artichaut près de Morlaix. Il a parfois du mal à écouler sa production.
De voir toute une production qui va à la poubelle, c'est invendu, c'est dur. Déjà financièrement, et puis c'est dur d'accepter ça.
À cause d'une consommation en berne, certains producteurs s'en détournent, confirme Guillaume Jacques, responsable du produit artichaut au Séraphel.
Malheureusement, chaque année, on voit un déclin des surfaces. Il est temps de repenser un petit peu le produit, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le consommateur non seulement ne sait pas le préparer, mais ne sait pas non plus comment le manger.
Perçu comme long à préparer, dur à cuire, trop fibreux, l'artichaut n'attire pas les jeunes. Près de 70% des consommateurs ont plus de 60 ans. Olivier Cinquin, le directeur de la SICA, en est bien conscient.
C'est un produit qui souffre pour différents facteurs. La transformation d'artichaut n'existe plus en France ou en Bretagne. Le consommateur habite aujourd'hui dans des appartements, et donc il faut gérer les déchets de l'artichaut, notamment les feuilles. Donc on travaille en fait pour réactiver la consommation d'artichaut qui pour nous est essentielle.
Parmi les pistes envisagées, un packaging plus moderne, une promotion du produit et la recherche de nouveaux débouchés. Les acteurs de la filière restent confiants. La disparition de l'artichaut breton n'est pas pour demain.
Voilà, et la saison de l'artichaut, c'est pas tout de suite. Ça commence fin mai. Si vous envoyez sur le marché, ils ne sont pas français, ils ne viennent pas de Bretagne. Voilà, fin mai jusqu'à début octobre. L'OM pourra-t-il renverser la vapeur la semaine prochaine? Hier, en match aller des quarts de finale de la Ligue Europa, les Marseillais ont perdu à Lisbonne 2-1 face au Benfica, mais l'espoir d'une qualification demeure donc au match retour la semaine prochaine. Enfin, après un best-seller, un film, une pièce de théâtre, Petit Pays de Gaël Faye n'avait donc pas fini d'être adapté. Voici la bande dessinée, ou roman graphique, comme on dit aujourd'hui, au moment où l'on commémore les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Roman signé Marzena Sowa et Sylvien Savoya. Leur travail a ému Gaël Faye, qui s'est confié en avant-première à Isabelle Pasquier.
Émotion de redécouvrir Petit Pays, mais cette fois incarné par des visages, des paysages qui offrent une nouvelle vie au roman et à Gabi, exilée de son enfance insouciante, puis dévastée par la guerre civile au Burundi et par le génocide des Tutsis au Rwanda. On retrouve Gaël Faye qui vient tout juste de découvrir la bande dessinée, troublée, touchée.
C'est une émotion renouvelée parce qu'après le film et puis la pièce de théâtre, là c'est encore une nouvelle forme et j'ai trouvé une forme beaucoup plus libre, peut-être beaucoup plus intime et personnelle. Comme j'ai fourni des éléments comme des photos de mes parents, de ma sœur, de ma maison, de moi-même, des lettres, des choses très personnelles à Sylvain, à Savoya, je retrouve une atmosphère qui correspond à mes propres souvenirs. C'est vrai que quand j'ai vu les premières planches avec les visages des personnages, c'était troublant de se reconnaître et de reconnaître aussi tous ces souvenirs d'enfance.
Sur chaque page, le souffle, la puissance de l'écriture de Gaël Faye pour dire l'effroi à hauteur d'un môme de 12 ans. Un récit sensible signé par le duo Marzena Sowa et Sylvain Savoya. On a le souffle coupé par la force de ce récit graphique pour dire l'enfer sur terre, le paradis perdu et la nostalgie. Quand la poésie et la soif de vivre transcendent l'innommable.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu ris, je ris.
Petit pays, version BD en librairie dès aujourd'hui.
C'était le journal de Florence Paracuelos, il est 8h15.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Marie-Pierre Planchon, pas mal de grisailles ce matin.
Et oui Marion, avec le renforcement de l'anticyclone, à cette époque ça donne pas mal de nuages bas près des côtes de la Manche ou de l'Atlantique, des bandes brouillards comme vers la vallée de la Garonne, le Val-de-Seine, mais aussi autour de la Loire et sur le Massif central, des grisailles qui vont se dissiper assez rapidement, mais qui laisseront place encore aux nuages sur certaines régions du nord de la Loire, alors que vous avez vu le soleil se lever sur une large moitié sud, sous des températures contrastées, un petit gelé à la Mure en Isère, il fait moins 2, il fait un petit degré en Haute-Marne, pas plus de 5 à Nevers, mais 13 dans la Drôme et 11 à Paris.
Et soleil dominant cet après-midi.
Oui, et même demain, on change d'ambiance avec la hausse des pressions, une situation qui n'était pas arrivée depuis la mi-février. Donc on peut en profiter encore sur la moitié nord, malgré quelques cirrus qui viendront dessiner sur le ciel bleu. Ça n'empêchera pas d'avoir 20 sur le Cotentin, 21 à Nancy comme Ajaccio, 22 à Lille, 23 à Nantes, à Paris, à Bourges ou encore à Toulon. Comptez 25 à Bordeaux comme à Tarascon, 26 à Montpellier et on pourrait même atteindre les 28 à Tulle. Demain, Météo France prévoit un pic de chaleur d'intensité remarquable pour une mi-avril. On n'atteindra pas les 34 degrés au Pays Basque comme dernièrement, ni les records de 2005 où il avait fait 27 à Rennes. Dimanche de nouveau, le yo-yo, ça va baisser par le nord-ouest en se rappelant Victor Hugo. La vérité comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder.
Merci Marie-Pierre Planchon. Il est 8h16, géopolitique.